Nous sommes lundi 18 mai 2020, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu. Tout de suite, le journal en français, c'est avec Nafissa Adam Sirfo. Les titres. Les demandeurs d'asile et réfugiés sensibilisés sur la maladie du coronavirus. Une initiative du Haut Commissariat aux réfugiés UNHCR pour faire face à la pandémie de la région d'Agadez. Aujourd'hui, 18 mai, journée internationale des musées, nous irons à la découverte du musée régional Medanda Seydou Zermakoy de Dosso. Qu'est-ce que la perquisition? Quelles sont les règles qui lui sont applicables? Réponse de la partie magazine de ce journal. Selon un communiqué du ministère de la Santé publique d'hier, 15 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été enregistrés au Niger, ce qui porte à 904 le nombre total de contaminations sur 3895 patients testés, dont 54 décès. 152 malades sont en cours de traitement et 698 autres personnes guéries, précise le communiqué du ministère de la Santé. Lutte contre la pandémie du coronavirus à Agadez, le Haut Commissariat aux réfugiés UNHCR a pris des dispositions de la gestion et la protection des demandeurs d'asile et réfugiés sur le site créé à leur intention de la dite ville. Qu'est-ce qui est fait dans le cadre de cette protection? Réponse avec Mohamed Nour Abdoulaye, chargé de protection bureau UNHCR d'Agadez.
Ils sont gérés comme les autres citoyens nigériens. Le HCR et ses partenaires sont présents sur le terrain et chaque jour, ils apportent des campagnes de sensibilisation pour informer les réfugiés et demandeurs d'asile face à leur comportement durant cette période donc, de la pandémie de COVID-19 à travers des focus groups, soit au niveau du centre humanitaire ou dans les cases avec des petits groupes de personnes pour leur informer sur tout ce qui est interdit. Nous avons mis au niveau du centre humanitaire et des cases de passage un dispositif de lavage des mains. De temps en temps, des rencontres sont organisées pour leur expliquer sur la manière de se comporter durant cette période face à la pandémie. Mais il y a également le plan d'urgence au niveau du COVID qui est là pour faire en sorte que les réfugiés bénéficient normalement l'assistance est également soumis, n'est-ce pas, aux mesures de prévention de lutte contre le COVID.
Des propos recueillis par Anissé Karim. En bref, l'Union européenne a approuvé le décaissement en urgence de 20,3 milliards de francs CFA en faveur du Niger dans le cadre du financement du plan de réponse global au COVID-19 élaboré par les autorités nigériennes, a indiqué dans un communiqué en date du vendredi 15 mai la représentation de l'institution européenne à Niamey. Face à la pandémie du COVID-19 et à ses conséquences profondes sur l'activité économique et l'accès aux services sociaux de base, l'Union européenne a convenu avec les autorités nigériennes d'anticiper le décaissement initialement prévu en juin 2020. Selon le même communiqué, deux autres décaissements pourront suivre d'ici la fin de l'année. La lutte contre la propagation du nouveau coronavirus s'accentue dans les quartiers périphériques de Niamey. Sayabou Khalidou, ancien membre du mouvement scout du Niger et aussi président de l'ONG Gasné, fait partie du comité de veille communautaire mis en place au quartier Kouaretegui. À quelques jours de la reprise des classes, il explique le rôle que cette cellule jouera dans les écoles.
Avec l'avènement du COVID-19, nous avons en tout cas eu quelques soucis et comme nous avions des relais communautaires ici à Kouaretegui, l'ONG a pensé qu'il faut les réunir. Comme déjà ils sont organisés, ils font des sensibilisations, voir comment pouvoir les appuyer pour qu'ils puissent mener des activités de sensibilisation au niveau de la communauté de Kouaretegui. C'est notre contribution, nous en tout cas en tant qu'ONG, de bouter la pandémie qui sévit actuellement. Au niveau des élèves, les relais là, ils vont aller au niveau des écoles pour aider. Parce que les enfants, quand ils vont sortir en récréation ou bien avec, ils prendront attache avec l'administration scolaire pour pouvoir faire des sensibilisations ponctuelles à ces enfants-là.
Le musée régional Meidanda Seydou Zermakoy de Dosso est l'une des infrastructures culturelles qui conservent les traditions de la région. À l'occasion de la Journée internationale des musées célébrée ce 18 mai, Kim Balfa, un des bénévoles qui travaille dans ce musée, nous retrace l'historique de la création de cette institution. Il est au micro de Aoussi Abdrahman.
96 noyé férié.
L'ouverture a eu lieu en 1996 avec quelques objets dedans. Mais à cette période de début, je n'étais pas là. Je suis arrivé en 2001. Les premières années, nous avons quelques visiteurs, surtout des touristes qui venaient en grand nombre. Et malheureusement, vers 2011, nous avons appris qu'on a interdit aux touristes de venir par ici. En ce temps, j'étais avec Haladou Mamman. À son arrivée, il n'y avait pas grand-chose, comme œuvre attrayante dans le musée. Mais actuellement, tout ce qui est joli et intéressant dans ce musée, c'est lui qui les a amenés. Et dans le temps, il y a des bonnes volontés qui nous apportent des objets, personnels ou familiales. S'il est établi qu'ils appartiennent au patrimoine culturel de la région, nous leur offrons une prime pour les garder ici.
Parlons éducation dans ce journal. Inquiétude du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens suite à l'annonce de la reprise des activités académiques le 1er juin. Dans un point de presse mardi dernier à Niamey du ministre de l'Enseignement supérieur et coordinateur des différents programmes de l'éducation. Pour le secrétaire général du CDUSN, l'État ne cherche pas à sauver l'année, mais à faire en sorte que les élèves aillent aux examens qui seront programmés. Al-Ghabit Mahamadou Hider est joint au téléphone par Tarnan Foudey Ahmed.
Nous réjouissons de cette information, mais quand même nous restons sceptiques par rapport à un certain nombre d'inquiétudes qui tournent autour de cette rentrée. Parce qu'il vous souviendra que les mois de juin et juillet sont des mois de la saison pluvieuse dans notre pays et que nous avons un nombre important de classes en paillotte et des élèves sans table banc. Nous avons beaucoup d'inquiétudes sur la régularité des cours pendant cette période. Deuxièmement, nous avons des grosses inquiétudes sur le fait qu'on puisse finir le programme dans ces 45 jours donnés. Il ne s'agit pas de sauver l'année académique coûte que coûte, mais de faire en sorte que les élèves puissent s'en sortir avec le cursus académique adéquat afin de faire face aux différents examens qui seront programmés. Troisièmement, le gouvernement, à travers le ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé qu'il y aura des gestes barrières devant tous les établissements. Nous avons des grosses inquiétudes parce qu'il n'y a rien qui nous prouve que ces mesures et la propagation de ces virus-là ne puissent pas, en tout cas, s'accentuer. Dès lors, suivi le point de presse du ministre, nous avons pris attache avec le gouvernement afin, en tout cas, de poser ces inquiétudes aujourd'hui qui rendent la rentrée effectivement ambiguë.
Suite à la recrudescence des vols de bétail dans les localités frontalières avec le Nigeria, le gouverneur de Maradi, Zakari Oumarou, accuse certains chefs traditionnels de complicité avec les voleurs. Pour lui, il est incompréhensible que cette importante quantité de têtes de bétail passe la frontière sans qu'aucune autorité coutumière ne les alerte. Il est au micro de Mohamed Maman.
Nous ignorons les milliers d'animaux qui ont été volés et emportés, ce qui est surprenant, et surtout la question qui se pose, mais au juste, qui profite à la consommation de la viande de ces animaux? Puisque aujourd'hui, s'il faut évaluer la situation du début de cette affaire à ce jour, plus de 50 000 têtes de bétail ont été emportées. On les a fait entrer dans les zones de Zurmi, de Shinkafi, Sabon-Birni, disons toutes les communes de Jibia qui sont voisines à notre région. Et tous ces animaux ont disparu. Dieu merci, le gouverneur de Zamfara a commencé à réagir puisqu'il a pris des sanctions à l'endroit de certains chefs traditionnels. Nous soupçonnons la même mise de certaines autorités administratives, bien sûr, pas toutes, mais aussi d'autres chefs traditionnels, pas tous également, dans cette machination faite en profitant du fait de notre voisinage.
L'armée malienne a annoncé le retour le dimanche 17 mai 2020 de ses éléments au poste de sécurité de Labzenga. En effet, les soldats ont repris leur quartier de Labzenga, localité qui abrite le principal poste de sécurité à la frontière entre le Mali et le Niger. Pour rappel, les soldats maliens positionnés à Anderboukan et Labzenga se sont repliés de leur position située le long de la dite frontière mi-novembre dernier suite à l'attaque meurtrière menée par les groupes terroristes le 1er novembre 2019 selon Actu Niger.
Salam alaikum Alpha.
Amin alaikum salam Hajja.
Alpha, je suis venu vous voir avec cette maladie de coronavirus qui est arrivée. J'ai besoin de quelques invocations pour moi et ma famille.
Concernant la maladie du coronavirus, nous les marabouts avons reçu beaucoup d'informations et de formations que je vais partager avec toi.
Merci Alpha, je vous écoute.
Il faut d'abord noter que la maladie n'épargne personne, quelle qu'en soit ta religion. En parlant de la religion, le coronavirus se transmet rapidement dans les regroupements. Voilà pourquoi nous avions demandé à tous les fidèles d'éviter les prières collectives.
Alpha, donc, c'est la solution?
C'est juste un point de prévention. Cependant, les spécialistes de la santé nous conseillent. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Éternuez ou toussez dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Gardez au moins 1 mètre de distance entre vous et les autres personnes. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Évitez tout contact direct avec les animaux vivants. Si cela est impossible, lavez-vous les mains après le contact. Faites bien cuire les aliments avant de les manger. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. Évitez les déplacements non essentiels. Évitez tout regroupement. Tu dois aussi utiliser des mouchoirs à usage unique. Une fois utilisés, ne les jette pas n'importe où, mais surtout dans une poubelle afin de ne pas contaminer les autres.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Place à présent à la partie magazine de cette édition, la perquisition et la recherche d'un élément de preuve d'infraction au domicile d'une personne physique ou morale. Cependant, il y a des règles applicables à la perquisition qui doivent être respectées. Aussi, la perquisition nécessite la présence de l'avocat de l'accusé et l'autorisation du juge d'instruction. Pour plus de détails, suivons les explications de Maître Moustapha Niébé au micro de Belkissa Hamidou.
La perquisition est une mesure d'enquête qui consiste à fouiller un lieu privé pour y trouver des preuves. La procédure est encadrée et se déroule sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ou d'un juge. Maître Moustapha Niébé explique.
La perquisition, c'est une mesure d'enquête qui consiste à fouiller un lieu privé pour y rechercher des preuves. Eh bien, il faut dire que la procédure est encadrée et se déroule sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ou d'un juge. Les règles sont renforcées pour les perquisitions visant certains locaux, comme par exemple le cabinet d'un avocat, le cabinet d'un notaire, le cabinet d'un huissier, le domicile d'un magistrat, et sont plus souples en matière de crimes organisés et de terrorisme. Elles concernent notamment les horaires, la présence et l'accord de la personne visée, la saisie des preuves, l'assistance d'un avocat.
Comment se déroule la perquisition?
Il y a deux grandes catégories de situations, suivant que l'enquête se déroule en flagrant délit ou en enquête préliminaire simple. Par exemple, en flagrant délit, on dit que l'infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ou dans un temps très voisin de l'action, la personne a été retrouvée en possession d'objets ou de signes laissant penser qu'elle a participé à l'infraction. Pour le cas du Niger, par exemple, c'est l'article 51 de notre code de procédure pénale qui donne la réponse. Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets à la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de la police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces personnes pour y procéder à une perquisition.
Dans quel cas la perquisition exige l'autorisation d'un magistrat?
C'est quand un dossier est devant le juge d'instruction. Eh bien, pour la manifestation de la vérité, le juge d'instruction peut procéder à tout acte nécessaire. Eh bien, dans ce cadre, il peut arriver que le juge d'instruction donne une commission rogatoire à un officier de la police judiciaire pour procéder à une perquisition.
Est-ce que la perquisition nécessite la présence d'un avocat?
Oui, justement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les droits de la défense, en fait. Les droits de la défense doivent être respectés. Tout à l'heure, je vous disais que même si c'est en cas de crime flagrant ou délit flagrant, eh bien, l'officier de la police judiciaire doit faire la perquisition en présence de la personne au domicile de laquelle l'infraction ou la perquisition a lieu. Eh bien, là, si la personne a un avocat, la personne peut demander à ce que son avocat soit là. À défaut, on dit que la personne doit choisir un représentant.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Engagement des jeunes dans la lutte contre le COVID-19 au Niger, c'est le thème du forum d'aujourd'hui et c'est avec Mokhtar Hamadou.
Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi.
Ouais, raconte, je t'écoute.
plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangu.
Sois clair, Rabbi, je veux comprendre.
Il suffit juste de composer le 325 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangu. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo.
Quoi? Et partout au Niger?
Et oui, en plus, l'appel sur le 325 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL.
Oh, merci infiniment.
Le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangu au rythme du Niger.